retenons que l'originalité de la manifestation, c'est en fait un vaste océan de pensées qui s'exprime. Et par conséquent, nous pouvons comprendre que nous sommes maîtres de notre futur et que l'être humain qui se retrouve dans tel contexte de société, eh bien, son temps, il a généré cet espace de fréquentation. Pensons le vrai, pensons le beau, pensons le bien, et par conséquent, nous irons devant ce futur. Vous voyez que l'être est en réalité un canal d'échange énergétique entre le non-soi et le soi planétaire, puis solaire, puis cosmique. Quand je dis planétaire, ça concerne plus particulièrement l'aspect intelligence. Quand je parle de l'énergie d'amour, ça concerne plus particulièrement l'aspect solaire. Quand je parle de l'espace cosmique, ça concerne plus particulièrement l'énergie cosmique, de volonté. Ce qui doit devenir un état permanent, c'est bien évidemment le double regard, à savoir le regard de la personnalité, qui, dans le cinquième règne, va être enrichi de la lumière du regard de l'âme. Abel et Caïn ne font plus qu'un. Et ensuite, vous aurez l'état de samadhi, comme le disent les orientaux, c'est-à-dire l'état permanent du double regard, c'est-à-dire que l'être ne quitte pas d'observer les choses de la vie du haut vers le bas. Ce qui veut dire que l'ouverture avec le Père est permanente, il sait pertinemment que s'il dérobe, la porte se ferme, et par contre, il a cette claire lumière froide du Père. Vous savez, quand Maitreya vous dit il y a 2000 ans, et dans cette lumière, vous verrez une autre lumière. Eh bien, en fait, il faut arriver à l'état de samadhi, c'est-à-dire de toujours avoir le regard du haut vers le bas. Tout est vu en tant qu'être de lumière réalisé. Ce qui veut dire qu'un disciple devient un maître quand il n'est plus dépendant de ses vies mineures, et quand il réalise que ce qu'il révèle est plus important que ce qui lui a été révélé. Je formule à l'envers. Ce qui nous est révélé est de moindre importance que ce que nous révélons. À partir de là, il est un initié aux réalités de la maison du Père.
C'est dangereux ça. Il y a plein de gens qui s'imaginent que ce qu'ils révèlent est plus important que ce qu'ils ont appris et qui en fait gouroutisent.
Ben oui, mais vous avez eu les 12 observances. Vous avez les principes permanents, à savoir l'oubli de soi. Non, comprenons ceci. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette phrase? Un disciple reste un étudiant à tout jamais, mais il ne devient un initié que quand il coupe le cordon. Ça veut dire qu'il doit être, je vais employer une phrase symbolique, s'il n'en reste qu'un, il sera celui-là. Alors après, bien évidemment, il y a la déviance, il y a le risque de rechuter. Ce que je vous ai présenté est l'enseignement théorique. Il s'avère, malheureusement, que des êtres ayant atteint la maîtrise connaissent encore des phases de transmutation et retombent dans les difficultés de maîtrise de la personnalité. Si, ils retombent dedans.
Quand on passe à un autre plan, on peut revenir au plan...
Tant qu'on est humain... Je peux vous dire que des êtres en son temps sont venus aider l'humanité et à vouloir faire avancer trop vite l'humanité, par excès d'affectivité, ben, ont chuté. Parce qu'ils avaient à gérer les conséquences de leur démarche. Vous voulez un exemple simple? Vous confiez le secret de l'atome à l'humanité, elle en fait une bombe atomique. Vous comprenez pourquoi tout ça doit rester sous le boisseau, doit être tenu secret? Parce que, il y a des centaines de milliers d'années, ce savoir divin de commander aux forces de la nature, donc tout ce monde de l'énergie, a été confié aux hommes. Et puis, ils en ont fait un mauvais usage. Il faut comprendre que la puissance de la pensée, c'est une énergie qui crée ce qui est conçu, tôt ou tard. D'où le danger. Alors, faites attention aux 12 secondes et aux 12 observances. Si vous voulez, en deux mots, Moïse a reçu les 10 commandements pour ne pas faire à autrui, hein, Ce à quoi Maitreya, il y a 2000 ans, a ajouté deux commandements. Le 11e, aimez-vous les uns les autres. Le 12e, que la volonté du Père soit faite sur la terre. Donc c'était le premier à apporter l'énergie d'amour, Siddhartha ayant amené l'énergie de sagesse. Cela dit, sagesse, c'est intelligence et amour. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'amour christique, c'est je fais à autrui ce que j'aimerais qu'autrui me fasse. Donc c'est un cran plus avancé. Bien. Et il a été le premier à appréhender la volonté divine. En passant, Maitreya, ça signifie bienveillant. Et un seigneur d'amour veille à être bienveillant, même s'il sait être exigeant, dur et sévère quand il le faut. Au fur et à mesure qu'il y a accès à ces nouveaux plans de conscience, il y a montée en puissance d'énergie et bien évidemment responsabilité. N'oubliez jamais, le Père est un feu dévorant qui, s'y avance en mauvais état, va se brûler les ailes. Alors comment se réaliser? Comment traverser le cinquième règne? Eh bien, c'est en appréhendant cette réalité que nous sommes un centre d'énergie dans un vaste ensemble et que ces énergies génèrent en fait le processus à la fois de manifestation et d'évolution. Processus de transmutation qui concerne en fait les deux premières portes que sont les deux premières initiations, donc la non-dépendance. La transformation, elle, concerne l'accès aux énergies qui sont liées au corps de manifestation de l'homme céleste. Je vous fais une parenthèse, attention, hein, l'homme céleste, c'est pas le logos planétaire. Ça l'est sans l'être. Le logos planétaire, ça, c'est son corps dense, son corps énergétique physique. Le plan astral cosmique, il y a son corps émotionnel. Le plan mental, c'est son corps mental pour les quatre sous-plans inférieurs, et puis il y a son âme sur le cinquième plan, partie supérieure, et puis ensuite il y a ses corps subtils supérieurs. Alors la différence c'est que le logos planétaire, son corps de manifestation, c'est tout ce qui vit sur ces mondes de manifestation. L'homme céleste, c'est une incarnation du logos planétaire, au même titre que chacun de nous, nous sommes une incarnation à la fois de notre être, de notre âme, et aussi de notre racine de vie. Est-ce que vous voyez bien la différence? Donc, l'homme céleste dans Bélé est désigné comme s'appelant Sanat Kumara. Kumara voulant dire régent. Un Kumara, c'est un régent. Mais au niveau cosmique, hein. Là, vous avez un terme oriental. Alors, quand on a une concordance au niveau occidental, bon, bah oui, Kumara, ça veut dire régent. Mais on verra qu'il y a des termes qui n'ont pas leur équivalent et par conséquent, on les garde comme tels. Après la transformation, vous avez la transfiguration. Alors, dans les textes de Bélé, notamment si vous voulez consulter tout ce domaine, c'est-à-dire le livre « Les rayons et les initiations », vous apercevrez que la troisième et la cinquième ont la même appellation, puisque le fait d'être relié à sa racine de vie, ça crée en fait l'accès à cette lumière froide et supérieure, et par conséquent, l'être est boosté, comme on dit. Mais la véritable transfiguration, en fait, c'est quand l'être peut dire, en réalité, celui qui me voit, voit le Père. Et cette scène, il y a 2000 ans, vous l'avez quand Maitreya, entouré de Pierre et de Jean, voit Élie et connaît la transfiguration. C'était la cinquième initiation. Mais en réalité, l'être est réellement le Père à la septième. Alors pour vous donner des repères, quand Jésus assumait sa vie de préparation et de sacrifice, il franchissait la quatrième. Et bien évidemment, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une vie de renoncement. Maitreya, en ce temps-là, pendant ces 3 ans, franchissait la cinquième. Aujourd'hui, il se prépare à la septième. C'est pour que vous ayez des repères. Mais ne regardez pas l'aventure comme étant réservée à des êtres surhumains. Vous allez gagner beaucoup en retenant toujours « faites comme si ». « Faites comme si ». Vous ne prenez pas la tête. Mais faites comme si.
Pour nous aider à faire un pont entre plusieurs nomenclatures, par rapport à la figure du « je suis » qui est donnée dans la charte de Saint-Germain, est-ce que la transformation correspond à intégrer cette partie qu'on voit Vous connaissez, je suppose, de la chaire de Saint-Germain. On voit l'être humain dans un tube de lumière. Au-dessus, on voit la partie christique. Et encore au-dessus...
La racine de vie.
Voilà, c'est ce que j'ai...
Oui, c'est ce que vous avez sur ce tableau, mais décomposé. Là, vous l'avez dans son schéma d'énergie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le tableau 8 que vous avez, depuis la racine de vie, cette vie a projeté son fil de vie dans la matière. C'est arrivé jusque le lotus égoïque, l'âme. Bien. Le fait qu'il y ait rencontre avec ce qu'on appelle la matière, donc le non-soi, c'est-à-dire toutes les vies qui ne sont encore que dans ces robes de la mer, il y a création de l'unité de conscience. Donc le fil de conscience est créé d'une façon permanente. À partir de là, le fil de vie passe par les atomes et le fil de conscience descend également. Mais il va falloir, pour l'être humain, de remonter jusqu'à sa source. Et il va falloir qu'ils franchissent des ponts naturellement inexistants. Ces ponts de lumière vont être à faire sur le corps physique et sur l'unité mentale. Puis ensuite, un boulevard jusque la racine de vie. Alors, ce pont de lumière, c'est en fait ce qui existe à la base de la tête, qui est une masse nerveuse qu'on appelle le pont alta-major. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'il y a une séparation physiquement entre le soi et le non-soi. La même chose est à répéter entre le soi manasique, l'unité de conscience supérieure, et l'unité mentale. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'être qui crée ce pont de lumière. Et là, ça s'appelle Antakarana. Ici, c'est également un pont dans la matière, mais appelé Alta Major. Alors, l'alta major, ben évidemment, on est sur le plan physique dense. C'est une masse nerveuse dans la matière dense du corps dense, base du cervelet. Et sur le plan de l'âme, en fait, c'est le pont entre l'atome permanent mental, appelé unité mentale, et l'atome manasique. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une liaison. Le soi, l'unité de conscience, et le non-soi, les deux fusionnent. Et ensuite, il y a l'enfilade jusqu'à la racine de vie. Alors, la kundalini, c'est quand le fil de vie, le fil de conscience et l'antakarana sont une triple tresse qui, en fait, revenant au centre basal, sur le plan physique, remonte jusque la racine de vie. À ce moment-là, le pont, le canal est fait sans obstruction entre le pôle mère et le pôle père. Et l'ensemble des Antakarana, des êtres, constitue l'Antakarana planétaire. Mais là, c'est tout simple, puisqu'en fait, c'est la vie qui fusionne, et il n'y a qu'une seule vie. Chacun de nous, dans le cinquième règne, édifie le pont de lumière, triple. Dans cette réalisation, il faut avoir la clarté de compréhension, à savoir, nous sommes tous égaux en potentialité. Un ancien n'est jamais qu'un être qui s'est un peu plus avancé sur le chemin de réalisation. Un ancien souhaitera toujours que l'étudiant le dépasse. Un ancien n'est jamais intéressé pour une reconnaissance personnelle à son égard. Il est serviteur de la vie, et par conséquent, il ne s'embrouille pas à des considérations de non-soi. Et il faut faire attention parce que les brahmanes, par conséquent les instructeurs orientaux, ont encore à nettoyer leur maison. Et notamment, ils aiment bien être pris au sérieux. À la maison du père, il y a des aspects de l'élégance qui s'appellent gaieté, finesse d'esprit, humour, jeunesse, vous voyez ? Et d'autres, qu'on étudiera en son temps. Mais c'est pour vous faire saisir qu'on est loin de l'amidon. Le principe de la maison du père, on a sérieusement à faire ce qu'on a à faire, mais on ne se prend pas au sérieux après. Hein. Nous restons des enfants, c'est rassurant d'ailleurs. Ce pont d'Antakarana sera étudié comme un vaste dossier, un vaste chantier. Il n'en reste pas moins que pour appréhender le sujet, vous voyez bien que cette réalisation technique, en fait, fête accompagne ce qu'on appelle les yogas. Alors, vous avez l'hatha yoga, maîtrise du corps physique. L'aya yoga, maîtrise du corps éthérique. Bhakti yoga, maîtrise du corps émotionnel. Raja yoga, maîtrise du corps mental. Agni yoga, maîtrise du corps christique. Yoga de synthèse, n'ayant pas en l'état d'appellation orientale. Peut-être que c'est réservé à l'Occident. Ce qu'il faut savoir, c'est que yoga voulant dire union, l'usage d'un yoga intègre en alignement équilibré les yogas inférieurs. Si vous pratiquez l'Agni Yoga, eh bien, naturellement, les alignements harmonieux des autres corps se feront. Jaywalkul fait référence au Yoga Sutra de Pantanjali, qui est le Raja Yoga. Mais on va dire que dans les livres donnés, en fait, les ouvertures pour les deux yogas supérieurs, l'Agni Yoga et puis le Yoga de synthèse, sont là. Le Raja Yoga, c'est lié à l'âme, à l'unité de conscience et du bon usage du mental. Mais le mental n'est que le véhicule de l'énergie du Fils, donc christique. Par contre, il est lui-même l'expression du mental de l'homme céleste. Vous voyez pourquoi, en fait, il va y avoir une double relation entre le mental humain et le mental de l'homme céleste. Ce qui fait que si vous repérez les nombres, cinquième plan compté du haut jusqu'en bas, cinquième plan compté du bas jusqu'en haut. Et l'identification avec le Père implique la fusion des deux aspects. Ce qui est important, c'est de voir les choses dans leur simplicité de conception. Et surtout pas être là à dire c'est hors de portée, hors du fait d'être assumé. Le temps est venu pour chacun des êtres qui, dans le monde, vont cheminer humblement vers celui qui donne la vie à la planète. Ce n'est pas l'affaire de cette vie. Et par conséquent, nous sommes aujourd'hui dans un processus où l'être sort de son individualité pour réaliser qu'il est une unité dans un vaste ensemble. Et que le temps est venu que le relationnel soit vécu sur Terre comme il est sur les plans subtils. Ce qu'a en charge les êtres du cinquième règne, c'est d'instaurer une civilisation de justes relations. Et c'est dans la clarté d'étude des choses de la vie, sur le plan mental, que l'unité du cinquième règne fait le principal de son travail. Ce qui veut dire que devant les événements de la vie, il peut porter un regard clair sur ce que devrait être l'équilibre des choses. Quand un être est relié au Père, et par conséquent en maîtrise, eh bien le Père peut rayonner son énergie, laquelle sème dans le mental de l'humanité. Mesurer l'opportunité de servir derrière cela. Veillons à ce que le canal ne soit jamais fermé par nos positions et progressivement, eh bien, nous avons, par notre mental devenu le véhicule d'expression sur le plan mental notamment de ce mental universel, nous avons impression sur l'humanité, le mental humain. Qu'en pensez-vous ? Que du bien à faire. Tout est à faire. Est-ce que vous voyez les opportunités de servir pour l'aide du cinquième règne ? À lui de tenir son espace mental clair et sain. Pureté physique, pureté énergétique, clarté émotionnelle et stabilité mentale. Il faut que ce canal soit libre d'obstruction. Et en cela, eh bien, vous êtes en état sexuel sacré, puisqu'en fait, cela permet aux deux énergies des deux pôles d'échanger et de s'unir. On verra un gros dossier qui s'appelle le sexe, mais dans sa dimension divine. Chacun de nous doit être l'expression de cette union entre ces deux grandes vies qui ont décidé de parcourir leur évolution cosmique en fusion. Alors qu'au départ, ce sont des contraires qui doivent devenir complémentaires. Dans ce que j'évoque pour les astrologues, comprenez que, en fait, chaque être, pour devenir christique, faites attention, hein, christique, c'est pas seulement que l'âme, hein, c'est le serviteur du Père et de la Mère. Le vrai Christ, le Christ, épouse la Mère, et en épousant la Mère, il va devenir le Père. Mais en manifestation, le Père est toujours le Fils. Et par conséquent, en fait, un Christ et tous les êtres du cinquième règne appartenant à la maison du Père sont des Christs en manifestation. Hein? Bien faire la distinction, Christ c'est l'être de lumière accompli. Le Christ planétaire, le Christ solaire, le Christ cosmique, c'est des fonctions. Et tout être doit se réaliser en étant celui qui unit le Père et la Mère. Et un Christ sur le plan astrologique, donc énergétique, apprend à fusionner les paires d'opposés. C'est-à-dire que les 12 énergies du zodiaque doivent devenir 7. Vous avez les 7 centres. Et vous avez, dans cette cinquième ronde, 5 glandes en activité, on va dire, classique. Ne sont pas mis là-dedans par rapport au cycle. Hein. Ne sont pas mis l'hypophyse et l'épiphyse, c'est-à-dire la glande pituitaire, la glande pinéale. Même si aujourd'hui les êtres du cinquième règne en fait sont en mise en activité de ces glandes. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que dans l'échange entre l'aspect mère et l'aspect père, eh bien en fait, la mère a comme contrepartie des centres énergétiques les glandes. Les glandes sont la contrepartie des centres énergétiques. Mais pour que l'être atteigne la fusion, il faut que l'échange se fasse, c'est-à-dire que l'énergie de la mère s'unissent au père. En d'autres termes, la glande pituitaire, la glande pinéale et le centre alta-major sont en circulation énergétique. En contrepartie, le centre de la tête, le centre de la gorge et le centre du cœur fonctionnent. Et donc ces deux sphères, si vous voulez, puisque ça fonctionne sur 5 dimensions, eh bien ces deux sphères génèrent la lumière dans la tête. Et bien évidemment le troisième œil. À partir de là, l'être est un Christ dynamique et actif.
Mais quand on a une montée de Kundalini, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé à...
Là, il faut faire attention entre, on va dire, l'approche classique de beaucoup qui pensent avoir fait monter Kundalini, et qui n'est en fait que l'énergie de la mère qui s'élève jusqu'au centre entre les omoplates où se trouve en fait la fusion avec l'énergie du mental. Mais ce n'est pas encore la véritable Kundalini. Et il faut savoir que ce qui est très gênant quand il y a exercice énergétique lié à la respiration est qu'il n'y a pas éveil spirituel en conséquence. À ce moment-là, entre chaque centre, vous avez une membrane. Si le processus n'est pas équilibré, au lieu d'être dissoutes, les membranes sont brûlées. Et cela peut générer des troubles très conséquents de fil de vie en vie. Et comme les êtres reprennent le papier, eh bien, ils peuvent connaître, s'ils forcent, s'ils continuent, ils peuvent connaître la folie. Et bien évidemment, une grande perte de temps au niveau de la restauration de ces membranes dans les vies futures. La dissolution est liée au niveau de conscience. Si vous procédez par progression de champ de conscience, tout se fait naturellement. Comment puis-je repérer ma progression? Je vois un horizon de conscience. Je m'avance dedans. Et puis, oh, c'est la pleine lumière pour saisir ce que j'ai atteint en champ de conscience. Et je tends à m'avancer. Et je connais les ténèbres. Je vais donc avoir un intermède pour stabiliser l'ensemble. Et puis vint le temps où, à nouveau, ouverture à une autre dimension. Et le même processus. C'est-à-dire, pourquoi il y a plan de conscience? Parce qu'il y a fréquence énergétique différente, dont décryptage se fait par l'espace de conscience. Prenons simple. Vous prenez, on va dire, une grosse majorité d'êtres humains qui aujourd'hui sont en conscience émotionnelle. Bon, c'est mental, émotionnel, hein, bien évidemment. Mais ils appréhendent tout en agitation émotionnelle. Et donc ça va être beaucoup sur leur désir. Mais bien évidemment, celui qui est plus avancé, il sera là à dire, mais attends, Plus d'applications pratiques, bah, s'il n'y avait pas de pub, ça voudrait que l'humanité elle est plus sensible, fragile à cette tentation, et à tout niveau. Regardez aujourd'hui, en conscience, vous pouvez dire, si je fusionne avec le Père, ne vais-je pas perdre mon individualité de conscience? Je ne vais pas disparaître, être absorbé? Si je me dis, ressembler au Père, ça ne va pas m'obliger à des sacrifices, à porter une partie du fardeau et ceci, cela. Mais c'est normal, ça fait partie, si vous voulez, des regards devant tel ou tel horizon à appréhender. Et puis on s'aperçoit à un moment donné que se mettre dans la main du Père, c'est beaucoup plus sécurisant et simple qu'on ne le pensait. Le Père sait y faire. Il a voulu, donner des repères au monde. Quand il dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, qu'est-ce qu'il faisait les tester? C'était de savoir se mettre dans la main du Père. As-tu la foi inébranlable en ce que tu as en conviction en toi? La foi, c'est l'intime conviction de ce que l'on sait. Dans l'entrée à la maison du Père, il y a l'avant-dernière marche, il y a la dernière marche, et puis après, il y a la porte. L'avant-dernière marche, c'est la marche savonneuse. On est mis dans un état où on est persuadé qu'on sait tout, que tout est bien, tout est ceci, tout est cela, n'est-ce pas, impeccable et tout, et on a l'oubli des règles du jeu. La dernière marche, elle n'existe pas. Alors il faut faire le pas, parce qu'elle n'existe pas. Et il y a une très belle image qui a été traduite chez Indiana Jones, vous savez, c'est quand il a à franchir, mais le problème c'est que là, il n'y a même pas de poussière. Et en fait, si vous voulez, la foi, c'est l'intime conviction en ce qu'on a acquis et que l'on porte en soi. Voilà. Alors on a vu les différents espaces de réalisation qui, dans la traversée du cinquième règne, vont nous amener à la porte de sortie du règne humain. Mais tout ça doit devenir un instinct. C'est-à-dire que c'est dans la nature réflexe de notre comportement de conscience. Il faut du temps, souvenez-vous. 700 vies pour l'aller en symbolique, 70 vies, là, 7 vies. 70 vies pour intégrer l'énergie d'amour-sagesse. Mais c'est un cycle symbolique, c'est-à-dire que ça peut faire 300 vies. Et pour pénétrer les champs de conscience de l'aspect père, volonté, donc champ de conscience, je préfère bien insister sur le véritable sens, c'est l'ashram, un champ de conscience. Même si, il y a superposition du groupe au niveau de l'Orient. Mais, en fait, n'oubliez jamais, la maison du Père, c'est un champ de conscience. Nous sommes dans les espaces sans forme. En d'autres termes, le Père ou l'un de ses aspects, l'un des Bouddhas d'activité, il prend l'apparence qu'il veut. Imaginez que votre source a toute potentialité de manifestation. C'est facile de comprendre que l'apparence, Au même titre qu'il faut démystifier le côté mystique des choses, dès l'instant où un être est relié à sa source de vie, à sa racine de vie, toute grande vie peut, être au contact. Puisqu'il n'y a qu'une seule vie. Il faut faire tomber des pans d'illusion. Mais, par contre, il faut toujours tenir une belle maison. Et retenez, nous ne sommes jamais qu'un canal. C'est la séparation qui génère tous les autres blocages. C'est beaucoup plus facile. Je vais être un peu, excusez-moi, mais on laisse le Père bosser. J'ai mis un genou à terre en disant ça. Permettez-moi de vous dire, vous ne seriez pas là si c'était pas à l'horizon pour vous. Donc il ne faut pas être là à dire, je ne serai pas apte à le faire. À vous de vous élire, il n'y a pas d'élu. Et puis, sachez que, si ça peut vous rassurer, nul être n'est entré à la maison du Père qu'il n'ait eu les genoux et les coudes en sang. Le seul qui a été un peu privilégié, c'est Maitreya. Mais bon, on lui pardonne. Mais il l'avait bien mérité.
Privilégié.
Non, ça c'est hors de question. Non, simplement, il a eu la finesse d'esprit de tracer droit. Il en faut bien un parmi nous.
On doit faire pareil. Je croyais qu'il était venu aussi pour nous sauver.
Qui vous l'a dit?
Je ne sais pas, j'ai entendu.
Mais oui, il peut venir.
La chose qu'il faut saisir, c'est qu'en fait, dans le champ de conscience du premier plan, on est tous concernés puisque nous sommes la vie. dans ce cercle infranchissable qu'est le schéma planétaire, la Terre. Ce qui veut dire que nous sommes privés de la puissance de notre source planétaire tant qu'on n'aura pas, comme on dit, élargi le cercle de lumière.
Il faut se fusionner en lumière.
C'est-à-dire, si vous voulez, on est interdépendants les uns des autres. Essayez de comprendre que quand vous dites le Christ Maitreya est venu pour nous sauver, mais lui, en contrepartie, il a son contrat de vie. Hein. Il doit un jour s'agenouiller devant le Père en disant « Père, j'ai rempli mon contrat. Hein. » Lui, en tant qu'instructeur de l'humanité, il en est le guide. Et c'est une tâche, on va dire, au-delà du règne humain, mais tous les grands aventuriers de la vie ont un contrat de vie. Hein. Celui qui donne la vie à la planète, il a comme contrat de vie vis-à-vis du Logos solaire d'amener 3/5 de l'humanité à sortir du règne humain. Bah, nous, on a des petits lunaires, lui, il en a des gros. Hein. Quand vous voyez certains lunaires humains qui traînent sur la Terre, bon, et c'est une partie de nous-mêmes. Vous vous rendez compte, quand on est là à critiquer quelqu'un, on dit...
C'est une analyse.
Non, mais il faut regarder ça d'en haut. Vous vous rendez compte, un jour, dans votre futur, vous serez assis sur votre planète et vous direz à votre... Tu te souviens, là, quand on était chez Cléa, là? Ils sont comment, tes humains? Alors là, je vais te dire, ils sont pas mieux qu'à notre époque, hein.
La série de Verber sur les dieux, nous les dieux, etc. Ça raconte un peu ça. Enfin,
bah oui, mais...
Ah, et puis en gardien, déjà, bah, c'est pas marrant, s'occuper de... Puis ensuite, etc. Et puis à la fin, bah, c'est s'occuper de système, de
solaire, tout ça. Et c'est en ça que vous voyez que naturellement, la vie est don. Aimer, c'est donner. C'est donner la vie. Parce que si vous réalisez que notre pensée n'a pas de limite, le penseur, il est dans une abstraction à 360 degrés. Bon, il n'y a aucune limite à la manifestation et à l'évolution. Aucune limite. Simplement, celui qui innove un peu dans une direction, il faudra qu'il clarifie l'harmonie. Question ?
J'aime bien la pensée de Robindo qui disait « La vie n'a pas de but, un but est une limite. »
Certes, c'est toute la différence entre l'infini et l'absolu.
Justement, en nommant, on cherchait un nom pour ce yoga, moi j'ai pensé à Aurobindo qui faisait une pratique sur le supramental. C'est comme si c'était un petit peu le yoga suivant, je pense, non ?
Sa nature, c'est le yoga de synthèse. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'absorption par l'un. Donc la fusion progressive avec le mental divin. Ce qu'il faut faire très attention, c'est que la plénitude de la hiérarchie de lumière, donc de cette sphère de conscience, c'est la réalisation de l'unicité. Alors qu'ici, c'est l'unité. L'unicité, c'est je suis en pleine harmonie, je veille à la pleine harmonie de la différence. Tandis que là, je deviens le père. Mais il y a une nuance, parce que la difficulté de l'unicité, qui est liée à l'amour, c'est de dépasser l'affectivité. C'est normal que tu inverses parce que nous sommes toujours en triple triplicité. Ce qui veut dire que dans la maison du Père, tu vas passer par l'aspect mère, tu vas passer par l'aspect fils et puis après tu seras à l'aspect père. Il est tout à fait logique dans la montée en absorption que tu connaisses l'unicité à un moment donné. Mais l'unicité est devenue un instinct.
Être unique,
oui, mais un instant.
Est-ce que c'est pas quitter les robes de la mère et trouver vivre à l'intérieur de soi la mère avant de jouer le père?
Il y a toujours ce processus-là. C'est-à-dire que dans le passage de champ de conscience à un autre, on passe d'abord par l'aspect mère du champ de conscience, l'aspect fils, l'aspect père. Bon, alors ce qu'il faut saisir, c'est que quand des êtres, on va dire symboliquement, sont autour de la table ronde, qui a un ancien qui fonctionne en épicentre. D'une certaine façon, lui, par rapport aux 12, a synthétisé en 7 les 12. Il a fusionné. Il est devenu le père-mère, puisqu'il a fusionné la ligne père, la ligne mère. Bon. Mais, en fait, il faut que les 12 portent le même nom que le centre, symboliquement. Imaginez que 12 êtres, qui sont par définition des contraires, doivent devenir complémentaires, et doit devenir le centre. Imaginons que, pour désigner cela, on les appelle Abraham. Eh bien, un jour, ils vont être tellement fusionnés que quand on parlera de l'un, on ne parlera que des 12. Est-ce que vous voyez la subtilité de la chose? Il y a une telle fusion, alors qu'ils étaient des contraires, qu'ils sont l'un.
Il n'y aura plus de séparativité.
Aucune séparativité et aucune distinction de conscience. Eh bien, à la maison du Père, si vous voulez, dans la partie conseil supérieur, c'est cela.
Peut-on faire un rapprochement avec les 7 couleurs lumière qui deviennent...
La lumière blanche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, c'est des octaves, et que par conséquent, on monte. Mais essayez de comprendre l'aspiration à la source d'origine. Si vous comprenez que à la maison du Père planétaire, on a fusionné la dimension planétaire, puis on va fusionner la dimension solaire, puis on va fusionner la dimension cosmique. Mais quand on sait que au départ du Big Bang, sur les très hauts plans supérieurs, vous avez une grande vie cosmique dont la dimension de manifestation est de cet univers et qui pulvérise sa vie pour donner vie à tout ce qui vit dans les 7 univers. C'est pour montrer, si vous voulez, qu'il y a un chemin de l'aller, mais il y a un chemin du retour. Simplement, toute cette réunion de vie mineure, eh bien, c'est quoi? C'est la vie du Père qui descend dans les robes de la mère, donc de son opposé, et qui doit remonter en emmenant la mère, pour redevenir le Père-Mère. Entre deux, vous avez des vies qui sont à des kilomètres de leur réalité. Quand vous voyez un être dont le comportement, il est facile à voir, le laisser-aller humain, bah c'est un être qui est à des kilomètres symboliques de sa réalité. Et que pour rejoindre sa réalité, bonjour les galères. Voilà. Une potentialité qui est latente, qui devient active, qui devient dynamique. Et entre-temps, des travers. Mais n'oublions jamais que toute vie a sa partie pleine et sa partie vide. Et que notre champ d'amour, c'est la partie vide. Regardez dans nos relations de famille, de couple. Si l'on veut exprimer l'amour dans sa réalité, eh bien, les faiblesses de l'autre, la partie vide de l'autre, chacun en a, c'est notre champ d'amour. CHAMT et CHAMP. Autrement, vous n'êtes pas en amour véritable si vous n'aidez pas l'autre que vous chérissez à devenir meilleur. Mais regardez à l'usage classique, les gens se critiquent. Or, la bienveillance, c'est dans cette démarche, il est de dire, nous sommes main dans la main pour avancer dans l'aventure et par conséquent, mon champ d'amour, c'est d'aider l'autre. Oui, mais c'est ce qui attend l'humanité si elle veut vivre en harmonie.
Chez les jeunes couples qui font un travail sur eux, on le voit, c'est très beau à voir.
Oui, parce que ce temps est venu pour voir arriver des beaux êtres.
On a des leçons à prendre avec les jeunes couples qui font un travail sur eux.
Qui sont les plus jeunes? Les plus vieux. Voyez-vous, c'est une évidence, mais il faut que ça passe en conscience collective. Vous voyez ce qu'il y a à faire là dans l'immédiat, c'est-à-dire il faut qu'on sorte de l'aveuglement d'une seule vie. Il faut qu'on sorte de l'ignorance que on est maître de son destin et que ce qu'on sème, on va le récolter. Ça, les premiers pas là actuellement pour débloquer les ténèbres. Les hommes doivent réaliser qu'en fait, ils ont à devenir ce qu'est leur source. Alors, pour achever ce niveau d'approche, il faut bien comprendre que quand un être est arrivé dans cette entité lumière, qu'on appelle la hiérarchie des âmes, il va progressivement passer par la triplicité, c'est-à-dire y rentrer, puis être le fils, puis devenir le père. Et ensuite, il pénètre ce nouveau. Pour traduire, quand il arrive ici, il rentre dans l'aspect maison du Père, le plan atmique. Il pénètre dans l'aspect volonté, donc l'aspect divin. Donc il va avoir Saint-Esprit, l'aspect mère, le Fils christique, hein, et le Père. Et par conséquent, tant qu'il est ici, il est en étudiant. À partir de là, il devient le Père, c'est-à-dire qu'il devient l'initié qui assume. À partir du plan atmique, il est en montée en puissance, il retrouve les